Bonjour et bienvenue sur cette vidéo ou sur cet audio, selon si vous regardez ma chaîne YouTube ou si vous écoutez mon podcast. Dans cet épisode, je vous partage l'échange que j'ai eu avec mon invité quand je l'ai interviewé début avril 2023. Cet épisode est un extrait de la vidéo complète qui s'intitule « L'éducation canine positive, laxiste ou permissive ?» Mes 13 invités vous répondent. La question que j'ai posée à mes invités était « En quoi, pour vous, les méthodes positives, respectueuses et bienveillantes ne sont ni laxistes ni permissives ? » Mes interviewés sont des consoeurs, des confrères, mais également des vétérinaires, éthologues, ingénieurs en biologie animale spécialisés en neurosciences et en éthologie, et aussi des particuliers avertis. Aujourd'hui, voici l'un ou l'une de mes interviewés. Bon visionnage ou bonne écoute !
Bonjour Perrine !
Bonjour Véronique !
Je suis contente que tu sois là avec moi aujourd'hui pour cette vidéo. Donc Perrine Vuch, hein, de l'entreprise Dogs Company, tu es dans le Gard.
C'est bien ça.
Donc Perrine, j'ai une question pour toi aujourd'hui. En quoi pour toi les méthodes positives, bienveillantes, bien traitantes et respectueuses ne sont ni laxistes ni permissives?
C'est toute une question. Et beaucoup, ça alimente énormément de discussions. Moi, ça fait 16 ans que je fais ce métier et c'est toujours une question qui alimente les propos. Déjà, pour moi, pourquoi ce n'est pas permissif? Je dirais déjà, qu'est-ce que ça veut dire permissif, en fait?
Permissif, laissez tout pour faire. Moi, c'est un petit peu l'idée que certaines personnes pensent que quand on éduque en positif, eh ben, en fait, c'est la foire et qu'on laisse tout faire aux chiens.
Voilà. Exactement. Permissif, ce serait en fait faire évoluer un chien sans aucun cadre.
Exact. Et donc, ce n'est pas possible.
Parce qu'en fait, ce n'est pas possible. Un cadre va être nécessaire, en fait, pour pouvoir déjà vivre ensemble, pour pouvoir bien vivre ensemble dans un groupe social. C'est nécessaire. Et ce cadre, il va être nécessaire et surtout indispensable à la mise en place de toute notre stratégie et tous nos outils éducatifs. Ce cadre, il va aller avec aussi la cohérence et le fait de mettre en place régulièrement les actions qu'on va devoir mener pour éduquer et enseigner aux chiens.
Et puis la sécurité aussi, s'il n'y a pas de cadre, il y a du danger pour le chien et les familles.
Il y a des dangers pour le chien et pour la famille, bien évidemment. Donc oui, non, enfin, pour moi c'est clair, on est vraiment dans une éducation où oui, il y a un cadre, où oui, il y a des règles de vie, parce que c'est indispensable à la vie ensemble, que ce soit entre humains ou entre humains et animaux.
Exactement.
Tu dis, c'est une histoire aussi de sécurité, en fait.
Eh oui.
C'est la base. Moi, je dis toujours que les méthodes, moi je dis respectueuses, les méthodes modernes, c'est une philosophie, oui. C'est aussi, on est dans un monde, en fait, où on va utiliser notre cerveau plus que nos muscles.
Oui.
Enfin, le cerveau est un muscle, bien sûr, mais plus que notre force. Parce que je pars du principe que, et c'est une réalité scientifique, les chiens sont des animaux voués d'intelligence et d'émotion.
Oui.
Donc, autant utiliser aussi notre intelligence. Ça, pour moi, c'est un facteur important. Quand on va utiliser des méthodes respectueuses, pour moi, ce qui va être important, et je mets toujours le point dessus, c'est la relation.
Oui.
C'est faire en sorte à ce qu'il y ait une relation qui soit de confiance. Pour moi, c'est hyper important.
De confiance et de qualité.
Et de qualité, parce que j'en parlais dernièrement sur mon profil Facebook, j'ai fait l'usage il y a 16 ans d'autres méthodes, donc je suis passée par là. Je sais ce que c'est. Et ce qui m'a le plus marqué à l'époque, et j'ai mis beaucoup de temps pour m'en remettre, c'est la confiance qui était brisée entre moi et mon chien.
Bien sûr, bien sûr.
Et c'est terrible, et c'est long à reconstruire.
Oui, parce qu'avec certaines méthodes traditionnelles coercitives,
oui,
il y a de la violence, la prise en compte, enfin les émotions du chien ne sont pas prises en compte, c'est juste tu dois écouter, tu dois obéir, et c'est fait avec force et violence et pression sur l'animal.
C'est ça. Quand on va utiliser des méthodes respectueuses, on va faire en sorte de déjà écouter les émotions du chien, écouter quels sont ses besoins fondamentaux. Donc les besoins que ce soit du chien, de la race et de l'individu.
Tout à fait, très
Parce
juste.
que dans une même race, on a une moyenne en matière de comportement qu'ils vont exprimer, mais il y a des moyennes hautes, moyennes basses. Donc ça, déjà, c'est hyper important. On va respecter l'individu, faire un checking avec la famille et en observant l'animal, voir quels sont ses besoins à être satisfaits, parce que déjà, si ça, on n'arrive pas à être OK avec ça, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin.
Alors justement, est-ce que peut-être tu pourrais nous donner un exemple d'une famille qui aurait un souhait particulier sur un exercice, enfin sur une consigne à laquelle la famille aimerait que le chien réponde, mais comme à côté de ça, il y a un ou quelques besoins qui ne sont pas respectés, ça ne peut pas fonctionner. Est-ce que tu peux nous donner un exemple?
Oui, ben, j'ai eu le cas justement dans la semaine d'un épagneul breton.
Oui.
Voilà. Donc la famille a toujours voulu un chien, mais le papa était récalcitrant. Et là, il a fini par craquer, mais il voulait un épagneul breton. Cet épagneul breton, il ne sait pas marcher en laisse, il n'a pas de rappel, il détruit tout à la maison. Donc la famille était vraiment dans un désarroi pas possible, mais ce chien ne sort pas.
Et voilà.
Ce chien ne sort pas de la journée, et en matière aussi de tout ce qui va être enrichissement dans l'environnement, de mâchouillage, il a eu quelques jouets, mais il les a tous détruits, alors on n'en a pas racheté.
D'accord.
Voilà.
Donc là, effectivement, besoin d'exploration.
Donc là, on n'est pas parti dans de l'éducation directement. On a passé une bonne heure à parler du chien, de la race de leur chien, de l'individu qu'ils avaient entre les mains. Déjà, pour pouvoir déjà mettre les choses en place qui vont être nécessaires à la mise en place d'une stratégie de travail par la suite.
Oui, parce que là, pour ce chien, le besoin exploratoire n'est pas assouvi, le besoin social n'est pas assouvi, le besoin masticatoire n'est pas assouvi, et peut-être encore d'autres. Et donc, on ne peut pas mettre en place des techniques éducatives sur déjà une base où le chien, il est forcément pas bien, parce qu'il y a tout ou en partie de ses besoins qui ne sont pas comblés.
Bien sûr, et on a beaucoup le problème actuellement par rapport à ça, à cette, entre guillemets, mode un peu quand même, hein, du chien d'utilité, chien de travail que l'on met en compagnie et qu'on voit de plus en plus.
Ah ben oui.
Et je vois beaucoup de gens qui ont des problèmes avec certaines races de chiens, pour ne pas citer beaucoup de bergers.
Tout à fait.
Parce que, à la base, c'est pas des chiens qui sont faits pour faire de la compagnie, ils sont pas là pour nous tenir compagnie, mais ils sont là pour faire preuve d'utilité et pour réaliser des tâches à nos côtés. Donc, c'est certain que si on ne leur donne pas un minimum d'activité, celle qui va être nécessaire à leur épanouissement déjà personnel, ça risque d'être compliqué par la suite.
Oui, oui, tout à fait.
On ne pourra pas aller plus loin.
Non, mais c'est très
donc, voilà.
Juste. Merci
éduquer
pour
un
cet
chien,
exemple.
Il n'y a pas de quoi. Éduquer un chien, ça va être déjà le mettre dans un environnement et une vie qui va être propice à son évolution, à son épanouissement personnel. Et puis après, plutôt que de se dire « je ne veux pas que mon chien fasse ci, je ne veux pas qu'il fasse ça », c'est-à-dire « qu'est-ce que je souhaiterais qu'il fasse à la place ?»
Exact.
Ça, c'est important. Et à partir de là, se servir de notre cerveau, mettre le chien dans les bonnes dispositions de travail, ça, c'est important. Pas le mettre dans des dispositions où le niveau va être beaucoup trop élevé.
Ou trop stressant.
Trop stressant, exactement. Trop stressant, où il n'aura pas le niveau à ce moment-là pour effectuer l'action, tout simplement.
Avoir des objectifs trop élevés.
Objectif trop élevé, c'est comme par exemple, ce matin, je parlais avec une cliente qui a un malinois et il apprenait la marche en laisse. J'ai dit, pour le moment, on ne va pas en ville avec.
Mais oui.
Pour l'instant, il va apprendre dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions pour qu'il apprenne à se concentrer et à marcher correctement.
Tout à
on ne peut
fait.
Pas aller trop vite. Ça, c'est hyper important. Donc, une fois qu'on a assouvi les besoins du chien, déjà, on a écouté le chien. Donc, c'est déjà pas mal. C'est déjà une grosse partie.
Oui.
Et ensuite, on va avoir des objectifs. Voir des objectifs qui soient concrets,
réalisables, oui.
Réalisables, ça c'est hyper important parce que parfois, il y en a qui ont parfois des grands objectifs avec certains chiens. On dit, oula, on va déjà un petit peu revoir les choses à la baisse pour justement mettre aussi la famille et le chien en situation de réussite.
Oui.
Parce que sinon, ils vont se voir en échec et c'est un échec pour tout le monde, finalement.
Et ça démotive.
Et ça démotive. Hein. Et après, les gens laissent tomber et disent, ça n'a pas marché.
Exactement.
Et souvent, je dis, mais dans les méthodes dites respectueuses, pour moi, les seules limites, ce sont nos compétences, en fait. C'est-à-dire que parfois, je vois des gens qui disent, oui, j'ai utilisé une méthode positive, ça n'a pas marché. C'est juste que les personnes qui ont enseigné ne savaient pas mettre en place un plan de travail correctement, en fait.
Tout à fait.
C'est juste ça, les limites. C'est-à-dire que ça nous arrive parfois, et ça fait 16 ans que je fais ça, et ça m'arrive de me remettre au bureau avec une feuille de papier et me dire, mais là, il faut que je fasse des modifications parce que si je ne fais pas comme ça, je ne pourrai pas faire en sorte que le chien accède à une réussite. Donc ça, c'est vraiment important. Donc oui, ça demande une planification de travail et des étapes qui vont être adaptées aux chiens comme aux propriétaires, parce qu'on n'oublie pas qu'on part quand même avec des humains qui, bien souvent, n'ont pas du tout de compétences là-dedans. Et
Bien
c'est
sûr.
pire quand on est sur des problèmes de comportement, parce que quand on est sur des problèmes de comportement, on est face à des gens qui, parfois, n'ont jamais eu de chien, n'ont jamais eu de chien facile pour s'entraîner avant, et se
Oui.
retrouvent avec un chien direct compliqué à gérer, parce qu'il y a des chiens plus ou moins difficiles. Donc ça, c'est pour dire vraiment que non, c'est pas destiné qu'à des chiens faciles, absolument pas.
Non.
C'est destiné à tout type de chien, même sur des protocoles de rééducation assez poussés. Le tout, c'est d'arriver à coacher les propriétaires et surtout qu'ils sachent une chose qui est hyper importante, et là-dessus, j'insiste tout le temps, c'est que c'est un travail qui demande du temps.
Oui.
On ne peut pas avoir un résultat en 2 jours. Moi, quand je vois parfois des publications ou autres, on dit en
Mais
2 jours, le chien, il est nickel. Il y a un guille sous roche.
oui, c'est
Je dis aux
pas
gens,
possible.
méfiez-vous, c'est pas normal en fait. C'est
Ça
ça
peut
demande
pas.
du temps et de l'implication pour avoir un résultat qui soit effectué dans le respect de l'animal, un résultat qui soit solide aussi hein, sur le long terme. C'est ce qu'on veut. On veut pas quelque chose qui s'écroule du jour au lendemain. Donc ça, voilà, ça c'est important de toujours. Moi, je le
Super.
précise à chaque fois.
Et arriver à coacher les gens de manière à ce qu'ils acquièrent des compétences avec leur propre chien pour
Bien sûr.
qu'ensuite, après avoir travaillé avec nous, ils soient autonomes et savent quoi faire dans
Bien
telle
sûr.
et telle situation.
Mais bien sûr, qu'ils sachent
Oh,
avoir une sorte de gymnastique. C'est
oui.
vraiment une gymnastique mentale, en fait, hein.
C'est
Le
à
but,
nous
c'est pas de les
de.
rendre dépendants, hein. C'est qu'ils sachent après, par la suite, quand ils rencontrent un problème, trouver des solutions qui vont répondre à leurs problématiques.
Donc c'est à nous de transmettre.
Ben oui, en fait. Bien sûr. Bien sûr, c'est de la transmission, hein. Et c'est ça qui est super intéressant dans le
Ben c'est
métier.
passionnant parce qu'effectivement, on va dire d'une famille à l'autre, notre travail ne se ressemble pas.
Ah, mais jamais. Je
Donc
crois
c'est.
que avec tous les dossiers que je dois avoir en archive, je crois qu'il n'y a aucun dossier qui se ressemble, en
Eh
fait.
bien oui, ça c'est super intéressant.
Ça, c'est super intéressant. Et on a souvent des gens qui appellent pour avoir juste, ils veulent juste un conseil. Mais moi, je leur dis, je ne suis pas capable de vous donner juste un conseil. Je ne sais pas faire. Juste un conseil. Parce qu'il y a tellement de possibilités, en fait. Dès qu'on commence à parler d'un chien, ben, on va, et d'une problématique, on va avoir plein de ramifications qui vont se faire et se dire, ah, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est tellement de détails.
Et ça peut
C'est
être
pour ça.
ça, et ça peut être ça, et ça peut être
Et
ça.
oui,
Les causes peuvent être
et
diverses, donc l'anamnèse là,
l'anamnèse, voilà.
est
Et...
très importante,
Exactement.
est indispensable.
Exactement. Et c'est pour ça que je précise toujours aux gens, quand on en entretient ensemble, surtout, je suis là pour faire du non-jugement, hein.
Bien sûr.
Besoin de toutes les infos, hein. C'est
Oui,
important pour moi, pour le
le
plan de travail et pour la sécurité aussi, parce que parfois, quand on nommait enfin, de façon volontaire des informations, ça peut aussi nous mettre en danger.
Oui. Ah oui, complètement.
Ah, mais je le dis, parce que j'ai déjà eu des cas de gens, ils ne disent pas que le chien a déjà mordu, par exemple, par
Oui,
peur que
non.
personne ne les prenne en charge.
Eh bien
Il
oui,
faut qu'on le sache, en fait.
bien sûr.
Parce que ça va dépendre aussi de beaucoup de facteurs pour nous, pour la prise en charge, et de savoir comment on va gérer la situation avec le chien, pour notre sécurité, pour celle de la famille et celle du
Oui,
chien.
et
Parce
oui.
que sa sécurité est aussi en jeu. Hein.
Oui, complètement. Et le non-jugement, c'est aussi une grosse part de notre accompagnement, parce que ça aussi, c'est être bienveillant.
Bien sûr, bien sûr. On est face à des familles qui sont
Démunis des
parfois
fois.
des démunies, bien sûr, démunies qui ont été parfois, et bien souvent malheureusement, j'ai encore eu le cas ce matin, qui ont été jugées. Ont été jugés même parfois comme étant incompétents pour leur chien, comme étant nuls, mais pas du tout en fait. À partir du moment où les gens ont envie de mettre en place quelque chose et ils font la demande, ben, à partir de là, on est là pour les accompagner.
Et pour ça, il faut avoir des compétences.
Et pour ça, il faut avoir des compétences, ben, surtout en écoute humaine. Et comme je dis toujours, c'est un métier où aimer les chiens, c'est bien, oui, c'est sûr,
Mais
mais
les
aimer
gens.
les gens, c'est important. Si on n'aime pas les gens, on ne peut pas faire ce métier ou on ne le fera pas longtemps.
Super. Eh bien, écoute, c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci pour ce partage. Et je te dis à bientôt.
À bientôt. Au revoir, Véro.
Super, merci.
Si ce contenu gratuit vous a plu et pour soutenir mon travail, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, Véronique Vallier autour du chien, à mon podcast, Autour du chien, le rendez-vous canin par Véronique Vallier, à mettre des étoiles, des avis, des likes et à en parler, à partager. Merci et à bientôt.